Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, au menu, on parle à un policier, à Daniel Cléroux. Tout ce qui se passe, là, de la violence conjugale. Il y a eu deux meurtres de femmes, c'était leur ex. On lui en parle. Ça sera ma plaidoirie en début d'émission également. Ça n'a pas de sens, là, ce qui se passe. Il faudrait trouver des moyens parce que ça arrive, c'est redondant. Ensuite, il y a l'aide médicale à mourir qui... le gouvernement demande des délais. Rappelez-vous, il y a eu une cause qui est très importante où est-ce que des deux demandeurs qui voulaient l'aide ont eu gain de cause, ont pu l'obtenir. Il y avait toute l'histoire de fin de vie qui est en question. Le gouvernement devait modifier la loi. On en parle avec le docteur Georges L'Espérance. Et il y a maître Jean-Paul Boily qui est là pour nous parler de tout ce qui se passe en Australie et Facebook. Le bras de fer qu'il y a eu, c'est quoi le résultat et c'est quoi l'avenir des médias sociaux? Est-ce qu'ils devront payer une redevance aux autres médias? Donc, votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On a vu que la fille des acteurs Normand Chouinard et Violette Chauveau, c'est une comédienne, Rosine Chouinard-Chauveau, qui est décédée la semaine dernière à l'âge de 28 ans. On n'a pas toutes les certifications, mais on présume que la jeune femme est devenue une victime des dommages collatéraux de la pandémie. Elle devait avoir une intervention chirurgicale visant à guérir un problème de santé qui a été repoussé en raison, ce que vous connaissez, le délestage. Ça a tout le temps été la crainte des gouvernements là, en lien avec la pandémie de la COVID-19, à savoir quelqu'un qui est malade, qu'on remet des rendez-vous. Ça peut être le dépistage du cancer, ça peut être des chirurgies. Et imaginez que par ce report-là, la personne en vient à en décéder. Ou même, on a vu, il y a eu des statistiques, les gens ne vont plus à l'urgence par crainte d'attraper la COVID. C'est tout ce délestage-là, on se demande à l'avocat à la barre, est-ce que ça peut engager la responsabilité des médecins? Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites pour quelqu'un qui aurait été délesté et qu'on pourrait le prouver? On parle avec un spécialiste en la matière, maître Patrick Martin-Ménard du cabinet d'avocats Ménard-Martin. Bonjour.
Bonjour.
Maître Martin Ménard, est-ce qu'on peut, une famille là, endeuillée qui a perdu un être cher parce que là, il y a eu du délestage, est-ce qu'elle peut entamer une poursuite judiciaire?
Bon, évidemment, il faut regarder chaque situation de façon propre. De façon générale, par contre, je vous dirais que évidemment, on est vraiment dans des circonstances de force majeure, n'est-ce pas, où il y a des décisions très difficiles qui doivent être prises sur l'allocation des ressources très limitées du système de santé là, dans le contexte de la pandémie. Donc, c'est dans ce contexte-là que dans un cadre davantage macro, il y a des décisions qui ont été prises au niveau du ministère de la Santé et au niveau des établissements hospitaliers pour délester certains services qui sont jugés non urgents, qui sont jugés... par exemple, des chirurgies électives pour faire davantage de place afin de répondre à la demande importante au niveau de la COVID. Ça, c'est des décisions qui sont prises au niveau macro.
Dans le fond, administrativement, on dit ici, il y a moins de danger, ça l'occupe beaucoup de notre temps, donc on va remettre ça parce que c'est pas urgent, en quelque sorte.
C'est ça. Puis je vous dirais, la première critique que je formule à l'endroit du système à ce niveau-là, c'est le manque de transparence puis le manque de clarté par rapport aux décisions qui sont prises. Il y a plusieurs documents qui ont été publiés, si on veut, en vrac par le ministère de la Santé, où on voit, par exemple, différents guides décisionnels là, pour les établissements qui doivent être pris sur quel service couper, quel service ne pas couper, dépendamment de certains seuils en fait là, en termes de des seuils en termes de sévérité de la demande ou okay. non, puis le niveau de la pandémie dans la région ou non. Et selon les seuils, en fait, donc là, dans les documents que j'ai consultés, c'est des seuils qui vont de 1 à 4 essentiellement. Il y a certains soins et services qui sont délestés à chaque niveau. Okay. Le problème qu'on a, c'est que d'une part, c'est très difficile d'avoir l'heure juste, à savoir quel établissement, quel territoire est à quel niveau. Et en conséquence de ça, quels services sont délestés. Puis c'est difficile pour les patients dont les services sont délestés d'avoir de l'information juste sur, d'une part, les raisons qui ont mené au délestage de leur chirurgie ou de leurs soins, et d'autre part, d'avoir de l'information à savoir jusqu'à quand, qui a pris la décision, est-ce que ça va être révisé, quand est-ce que ça va être considéré, et est-ce que cette décision-là a été prise en ayant en notre possession l'ensemble des informations là, sur la sévérité du problème du patient, puis sur les conséquences que le délestage pourrait avoir sur lui.
OK, donc c'est ça, il manque de transparence là-dessus. Là.
Mais c'est ça, puis c'est un petit peu, je vous dirais, la conséquence du fait que le système travaille beaucoup au volume, n'est-ce pas? On a dans les grandes catégories qui peuvent être très rigides, évidemment, ce qu'on peut juger comme étant un type de chirurgie non urgente pour une partie de la population peut avoir le fait de reporter cette chirurgie-là peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes pour une autre partie de la population. Donc, ça soulève la question de savoir comment ces décisions sont prises, par qui, est-ce qu'on a l'ensemble de l'information. Puis là, je pense que au niveau du système de santé, on pourrait faire preuve de beaucoup plus de transparence que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Okay. On a un peu la mentalité de dire que la fin justifie les moyens, puis que finalement, on fait ce qu'on a à faire, point final. Mais les patients derrière ça ont tout à fait le droit d'être informés de ça. Puis, en fait, d'avoir accès à l'ensemble de l'information qui est relative à leur situation médicale.
Est-ce que c'est une première faute, justement, de ne pas informer?
À savoir si c'est une faute qui pourrait engager la responsabilité civile d'une partie, évidemment, à première vue, je ne crois pas. OK, c'est bien, en soi, là, c'est-à-dire qu'évidemment, on est toujours, contexte de poursuite en responsabilité civile, on regarde toujours, là, je veux dire, un ensemble d'éléments pour être capable de rencontrer notre fardeau de preuve. Hein, il faut prouver à la fois une faute, un dommage, un lien causal probable entre la faute et le dommage. Mm-hmm. C'est davantage une critique générale que je formule à l'endroit du système de santé. Maintenant, dans le contexte actuel, évidemment, on est dans un contexte d'urgence sanitaire, les décisions de délestage, c'est des décisions qui sont prises, c'est des mesures qui sont prises en vertu de la loi sur la santé publique qui prévoit, dans le contexte de l'urgence sanitaire, une immunité à l'endroit du ministère de la Santé pour les décisions qui sont prises là, aux fins de gérer l'urgence sanitaire actuelle. Okay. Donc, le ministère de la Santé ne pourrait pas nécessairement être poursuivi devant un tribunal en responsabilité civile pour des décisions qui sont prises là, dans le contexte de mesures de gestion de l'urgence sanitaire. Maintenant, moi, je vous disais quand même que chaque situation a ses propres particularités, puis c'est important de le garder en tête, évidemment, parce que si la situation d'une personne délestée devient médicalement urgente, que cette personne-là consulte à l'urgence, puis qu'on lui dit essentiellement de rentrer chez elle, puis qu'on va la rappeler, puis que la personne décède au bout de quelques jours, mais là, il faudra regarder qu'est-ce qui a été fait au niveau de cet épisode de soins-là, puis à ce moment-là, la condition de la personne n'était-elle pas devenue plus urgente? Okay. Le cas échéant. Puis là, à ce moment-là, oui, ça pourrait effectivement engager la responsabilité médicale ou la responsabilité hospitalière. Là. Donc ça, c'est certain qu'il y a des particularités à chaque situation, mais je pourrais vous dire de façon générale, pour la décision de délester les services, malheureusement, ce n'est pas une décision qui peut amener le ministère à être poursuivi en justice. Puis c'est, je vous dirais, il y a une rationnelle politique derrière ça, de dire on va donner à nos décideurs politiques la plus grande marge de manœuvre possible pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ceci étant dit, c'est dommage parce que ça donne lieu justement à des pratiques qui sont très peu transparentes et à une remise en question, je vous dirais, qui n'est pas nécessairement très proactive et spontanée. Hein, vu qu'on a cette immunité-là, on se formalise trop, on se pose pas trop de questions, puis ça donne lieu à des pratiques qui, tant qu'à moi, sont pas acceptables.
Qui peuvent devenir inhumaines en se disant, on est protégé, mais où est justement cette faille-là sur la loi, la protection que donne la loi sur la santé publique à cette immunité-là? Comme vous avez dit, si, bon, ça devient urgent. Et là, sais-tu que ça devient une négligence tellement grossière que là, il y a cette faille-là où est-ce qu'il peut y avoir des poursuites ou?
Évidemment. Évidemment, moi, la position que je défends, c'est que c'est une immunité qui est relative. C'est pas une immunité qui est absolue. Donc, si on se retrouve dans des situations de grossière négligence, selon moi, ça expose la responsabilité du ministère. Maintenant, les limites de cette immunité-là n'ont jamais été testées devant les tribunaux. Donc, c'est le président qu'elle crée l'issue à ce moment-là d'un tel recours. Mais moi, je pense que si la situation d'un patient devient urgent, que ce patient-là consulte dans un hôpital à l'urgence, consulte, est vu par un médecin, une infirmière et autres, que l'urgence de sa situation n'est pas bien évaluée. Mm-hmm. Qu'on fait une faute au niveau, justement, de l'évaluation qu'on fait, qu'on renvoie après ça le patient chez lui ou qu'on ne lui donne pas le traitement qui serait requis par sa condition devenue urgente, ça pourrait effectivement engager.
C'est une ouverture qui engage. Mais comme vous c'est le ça. Dites bien, on n'a pas testé ça devant les tribunaux.
C'est ça. Mais par contre, pour bien préciser, quand je dis ça pourrait engager, on parle de la responsabilité du médecin qui aurait vu le patient, mm-hmm. de l'infirmière qui aurait vu le patient, donc de l'hôpital, mais non pas la responsabilité du ministère. Il y a vraiment deux niveaux de responsabilité à distinguer, n'est-ce pas? D'une part, il y a la responsabilité du ministère pour tout ce qui est macro, et d'autre mm-hmm. part, évidemment, il y a la responsabilité du médecin et de l'hôpital pour la façon dont ils ont traité un patient X ou Y qui est venu les consulter. Mais moi, je vous dirais que, donc, en fait, si la situation du patient évolue, ça pourrait possiblement engager la responsabilité du médecin.
Du médecin.
De l'hôpital, oui.
Mm-hmm. Ou de l'hôpital, parce que sur le système, il peut y avoir des problématiques systémiques vu la force majeure, la COVID-19, qui font qu'il arrive malheureusement certaines erreurs, mais on est couvert. Et est-ce que, je veux pas nous dévoiler des secrets, mais est-ce que, selon votre avis, là, je sais que vous avez des clients, est-ce qu'on assistera à certaines contestations devant les tribunaux et est-ce qu'on ira tester cette immunité-là dans les prochains mois, années?
Assurément. Je vous dirais, avec l'ampleur des dommages que fait la COVID à travers le Québec, c'est clair qu'il va y avoir des... je serais très étonné qu'il n'y ait pas de dossiers qui se rendent jusqu'à procès et qui donnent lieu à des jugements mm-hmm. qui permettront là, de préciser qu'ils ont les limites et les balises autour de cette unité-là.
Effectivement, parce qu'on comprend imaginez être parent, être un frère, une sœur, et là, de savoir qu'on l'a un peu échappé, là, que c'est une erreur qui, à cause de la pandémie, on a oublié un être proche, là, le solatium doloris, là, de vouloir réparation pour la perte de cet être cher-là. On verra, comme je vous dis, je ne vous demande pas de nous révéler tout ça, c'est vos dossiers, mais comme vous dites, on verra certainement des gens qui vont clamer justice dans ce domaine. Là, parce que quand on regarde le principe, c'est choquant. Il y a de quoi qui accroche, là, de perdre des gens. Là, on comprend qu'il y a une pandémie, mais est-ce qu'il y a une priorisation qui se fait adéquatement? Est-ce qu'il y a eu des fautes lourdes à cet égard-là? Merci beaucoup, Maître Patrick Martin-Ménard, nous avoir éclairé.
Merci à vous.
Bonne journée. Bye-bye.
Merci. Au revoir.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Une histoire troublante révélée par le journal Métro. Là. Une agression sexuelle par fraude. Et vous le connaissez, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, avocat, qui a écrit dans le journal à propos d'une histoire, comme je dis, troublante, oui. Les histoires d'agression, là, quelqu'un qui a une maladie ne le dit pas à son partenaire. Et imaginez, le partenaire l'apprend par la suite. Et imaginez la bombe dans une vie lorsqu'on apprend, si on a une relation sexuelle avec quelqu'un non protégé, on apprend que la personne a le sida. Il y a eu des cas de gens qui ont donné la maladie, le sachant, mais il y a tout un enjeu juridique là-dedans. Puis on en parle avec Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour.
Salut!
Salut! Hey, c'est un article que j'ai lu qui choque, là. On se cachera pas. Explique-nous là, comment ça s'est passé, cette histoire-là.
Ouais, c'est écoute, d'un point de vue humain, c'est difficile et c'est drôle parce que l'étudiant en question, au même moment où on se parle, est en train de m'écrire là, parce qu'il a eu connaissance des entrevues là-dessus. Puis bon, je pense qu'il est content. Mais pour faire une histoire courte, c'est un étudiant que j'ai cette année, que j'ai eu l'année passée aussi en constitutionnel 1, 2, c'est un an administratif, et on parlait que ce dont on a parlé, toi et moi, si je me trompe pas, une cour spécialisée en matière d'infraction sexuelle. Et
ouais.
Donc, on jasait ça avec les étudiants, et à la fin du cours, il m'envoie un courriel. Il dit, écoutez, je voulais pas intervenir, mais je voulais vous dire que je me suis fait moi-même agresser cet automne, bon, et tout. J'ai dit, évidemment, j'étais sonné un peu, là.
Mm-hmm.
C'est pas mon ami, là, je le connais pas. Il est franchement brillant, adorable et tout, là, mais tu sais, je le connais pas du tout, ce gars-là, autrement. Donc, merci de votre confiance. Je peux faire quelque chose, vous me direz. Et bref, on a convenu d'un Zoom récemment, et de là, la chronique que tu as lue. Et pour faire une histoire courte, encore une fois, en novembre dernier, donc tout récemment, il convient de sur un site, une application quelconque là, d'un site de rencontre, je ne sais pas lequel, il convient de faire en sorte qu'un gars qui ne connaît pas vraiment, sauf sur cette application-là, débarque chez lui. Il est membre de la communauté LGBTQ. Là, se passe ce qui a à se passer. Le gars repart chez lui et l'étudiant qui s'appelle Couture Vanasse a par la suite une espèce de mini-crise d'angoisse qu'ils ont, on ne s'est pas protégé, on aurait peut-être dû. Bref, il écrit au gars en question, je vais protéger l'identité de mm-hmm. l'agresseur là, pour pas nuire à l'enquête. Mais essentiellement, il dit, écoute, rassure-moi, t'es safe, là, entre guillemets, là, donc t'as pas de maladie, rien. Il dit, ah oui, je t'ai pas dit, je suis séropositif. Est-ce que c'est ça? T'es obligé de me le dire. Il dit non, oui, peut-être, mais bon, c'est pas très grave, t'en fais pas parce que c'est presque indétectable ou c'est très faible ou si et ça. Et là, l'étudiant dit non, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. T'avais l'obligation de soit me le divulguer ou de porter le condom comme tel.
Parce que là, c'est une agression, là. Dire, quelqu'un qui se sait contaminé, une relation, exact. N'avise pas. C'est une agression qui peut devenir même une agression qui est avec lésion grave s'il transmet la maladie. Là.
Ben écoute, c'est pas, pas la picote, là. C'est le sida. Là. Ben, en fait, c'est potentiellement le sida. Et l'étudiant va suivre des traitements qui coûtent une fortune. Il m'a dit entre 1 000 et 2 000 $, une affaire de fou. Il faut que ça se fasse rapidement, là. Dans les 72 heures, si je ne me trompe pas. En tout cas, je ne veux pas dire de conneries, là, puis ça s'étale sur X temps. Évidemment, il y a un traumatisme rattaché à ça, on s'imagine bien. Il abandonne des cours à l'université alors que c'est un méga brillant, puis ça, je peux en témoigner. Bref, toute sa vie est chamboulée parce que là, pendant un bout de temps, il se demande si il a ou non, lui aussi maintenant, le VIH. Les policiers le convoquent à peu près 2 mois plus tard. Donc, on s'entend que ça n'a pas l'air d'être une priorité. Et là,
ça a pris 2 mois.
Ouais.
Il a fait une plainte. Il est allé au poste de police faire la plainte?
Oui, il est allé au poste de police le lendemain ou soir, là, je ne sais plus, le soir même.
Okay.
Ça, c'est en novembre. Ils l'ont convoqué en janvier. Puis là, il y avait quelque chose. Il était encore, je ne sais pas quoi. Bref, il a pu y aller quelques semaines plus tard. Mais ça a pris 2 mois avant la convocation. Donc déjà là, c'est quand même un peu inquiétant. Il rencontre des enquêteurs spécialisés, donc en théorie des gens qui font ça dans la vie puis qui ont été formés en conséquence. Or, moi, c'est ce bout-là, je pense, qui me fâche le plus. Mmh. Ces deux enquêteurs-là qui se mettent à le bombarder de questions épaisses. Je vais peser mes mots, là, mais il y a le mot épais qui me vient en tête. C'est pas autre chose. En fait, il y a d'autres choses, mais ça se dit pas à radio.
OK.
Qui se mettent à lui dire, ouais, mais... Dessine-moi donc ton appartement. Là, tu as dit que tu as fait faire un tour de son appartement, puis ça s'est passé où dans ta chambre, OK. Puis qu'est-ce que vous êtes dit avant l'acte, pendant l'acte? Puis là, il y avait les cheveux de quelle couleur? Puis dis-moi donc, moi, c'est notamment ce bout-là. Les logos, là, y a-t-il des logos sur son linge ou sur ses souliers?
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, ces questions-là? Le gars a confirmé avoir le VIH par texto
Les textos sont déposés au poste de police. Écoute, je les ai, moi, les textos.
Ah ouais.
Quand je les ai envoyés. Je sais c'est qui le gars, là. C'est un gars connu, en plus, c'est un acteur et tout. J'ai tout ça, là. Je le vois. Il dit oui, il confirme qu'il y a le VIH, il confirme que c'est un détecteur. Il confirme tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'écœures une victime avec oui, mais là, si tu viens pas, s'il y avait le logo Nike ou Adidas, ah, ben là, ça va affecter ta crédibilité. Comme... Mais c'est du naps.
Mais on dirait des policiers qui comprennent pas et ça nous ramène aux tribunaux spécialisés et même des policiers spécialisés. On dirait qu'ils comprennent pas le type d'agression. C'est qu'il y a un consentement qui est vicié par après. Et c'est là l'agression. C'est quand ils se rendent compte qu'il y avait le sida, là.
Écoute, il y a même un des deux qui lui demande « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? »
Ah ouais.
Et là, l'étudiant dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Faire ta job? Écoute, une chance, je n'étais pas là parce que moi, j'étais pas mal moins poli, là.
Non, c'est clair, là.
T'es pas au courant que ça existe. T'es pas au courant de 265. T'es un enquêteur spécialisé en crimes de nature sexuelle. Puis tu sais pas que ça existe. Je te donne des textos qui confirment, puis t'es pas au courant. Mais qu'est-ce que ça va prendre, là? C'est quoi ces formations-là que vous avez? Vous ramassez un diplôme d'une boîte à Cracker Jack?
Ben oui, puis...
Vous avez jamais entendu parler de ça? Mais je veux dire, on est en 2021, là. On n'est pas en 82 quand le sida vient d'éclater quelque part dans le monde. Puis là, on se met à paniquer, puis personne ne sait trop de quoi il en retourne, là. Et hey, puis le MeToo, vous n'en avez pas entendu parler, le premier, le deuxième, le troisième?
Bien, c'est à cause que là, ça les a mélangés. Là. C'est comme une version différente, vu que l'agression survient une fois qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas de consentement éclairé. Mais hey, moi, je vais te dire, ce qui me choque encore plus, puis je me joins à ta voix, c'est de me rendre compte que pendant, là, ça prend 2 mois. Mais le problème avec ce genre d'agression-là, c'est que cette personne-là là, n'étant pas, ou du moins interrogée, ou ne comprend, peut-être qu'il comprend même pas qu'il agresse des gens, combien d'autres victimes il a faites en 2 mois?
Ben ça, tu vois, je t'avoue que je n'avais pas pensé sur le coup, mais tu as tout à fait raison. Et tu vois, là, j'ai écrit cette chronique-là, puis je me sentais mal. Je me sentais mal pour le gars, évidemment. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je veux pas instrumentaliser votre témoignage, là, faut que ça vienne de vous. Mm-hmm. Non, je veux. Bon. J'ai fait ce que je fais jamais. Puis toi non plus, j'imagine faire la même chose quand tu écris des chroniques. J'ai fait relire la chronique en question. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que chacun des mots? Parce que là, bon.
C'est plus délicat, là, on s'entend, ouais.
C'est très délicat. Puis il l'a relu 2 fois, j'ai corrigé 2-3 petits gugus, là, des dates, des affaires comme ça, pas des dates, mais des détails logistiques. Et bref, il était à l'aise. Puis à la toute fin, écoute, moi, ça m'a scié les jambes un peu, mais pas beaucoup en fait.
Mm-hmm.
Je me dis juste pour savoir, moi je vais le faire. Puis si vous voulez qu'on change, si vous voulez changer d'avis, vous avez le droit, on va retirer ça, on dit ça, puis c'est pas grave, j'en tiendrai jamais rigueur. Mais je dis pourquoi vous voulez faire ça? Parce que j'avais suggéré, si vous voulez mettre son nom, sortir son nom publiquement, il dit oui. Il dit pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez avoir une chronique? Il dit parce que je veux éveiller conscience, je veux faire changer les mentalités. Les agressions sexuelles, c'est pas juste dans le milieu hétérosexuel, c'est aussi dans la communauté LGBTQ. Il m'a raconté un peu cette histoire moins grave que celle-là, là, franchement, parce que ça peut pas vraiment être plus grave, mais quand même des histoires aberrantes. Et il me dit, il faut que ça change. Il dit, on est rendu en 2021, c'est inacceptable. Je veux que les gens connaissent cette position-là et tout.
C'est vrai.
Il me dit aussi, j'ai dit, ben écoutez, ça c'est la meilleure des raisons, mais il dit, il y a une autre raison aussi. Il dit, c'est parce que, il dit, moi, ma sœur, lorsqu'elle était adolescente, elle s'est fait violer. Mm. Et elle a mis fin à ses jours par la suite. Il dit, je traîne ça dedans de moi et puis, bon.
Ouais, c'est souvent le baume sur la plaie. C'est de pouvoir au moins dénoncer, aider d'autres personnes. Parce que, bon, on oublie vite, c'est ça. Puis c'est un bon point. Est-ce qu'on prend autant au sérieux des agressions dans le domaine gay, LGBT? Je pense que non. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il soulève de quoi.
On n'en parle pas parler. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est une sacrée bonne raison.
Mm-hmm.
J'ai aucune idée. On va faire le truc de je suis pas raciste, j'ai un ami noir, mais j'ai un paquet d'amis gays, évidemment, comme tout le monde. Puis bon, ça, aujourd'hui, la beauté de l'affaire en 2021, c'est qu'on. En tout cas, à titre personnel, moi, je ne vois même plus la différence entre un ami hétéro ou un ami sexuel. C'est comme c'est rendu d'une insignifiance totale, là. C'est pour eux, il y a encore certains stigmates. Je parle moi en rapport à eux et toi en rapport à eux, puis beaucoup d'autres en rapport à eux, versus il y a 5, 10 ou même, et à plus forte raison, il y a 20 ans, c'était, je veux dire, il y avait des stigmates très, très forts. Je pense que c'est en train de, de s'édulcorer tranquillement, pas vite. Il y a une évolution sociale. Les mariages entre conjoints de même sexe sont maintenant légalement permis. Puis, il y a eu une évolution. Reste que on n'en parle pas. Pourquoi? Je le sais pas. Et moi, c'est un peu ma contribution aussi, en quelque sorte, parce que je me disais, ben c'est une petite contribution de rien, on s'entend, mais de donner une voix à quelqu'un de cette communauté-là, mm-hmm. qui puisse faire connaître ce crime-là, qui je t'avoue, franchement, je te le disais hors d'onde tout à l'heure, moi, j'en ai entendu parler très, très vaguement à l'époque, mais il y a quand même deux décisions de la Cour suprême en 2012, très claires et très nettes. Mm-hmm. C'est une agression sexuelle. La personne ne peut pas consentir. Point. On la considère pas apte à consentir pour des raisons qu'on comprend bien.
Ben, exactement. Je pense qu'on c'est très clair, puis en tout cas, c'est une bonne chose. Félicitations d'avoir dénoncé ça. Je pense qu'on dénonce deux choses. Ce type d'agression-là, souvent qu'on oublie, là, le sida a fait peur pendant des années. Maintenant, il y en a qui banalisent. Non, ça existe encore, mais même si c'est pas COVID, c'est grave. Et également, ben, cet aspect-là d'agression, des fois, qu'on minimise quand un homme dit se faire agresser. C'est vrai qu'on a une tendance de vieux jeu, de je sais pas quoi, de minimiser ça. Hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais félicitations d'avoir sorti ça. On souhaite bon courage à la victime en espérant que le processus judiciaire se passe bien et qu'il pourra justement dénoncer, éviter d'autres victimes. Merci Frédéric Bérard.
Ben, merci à toi d'ouvrir la tribune à ce genre de cas-là. C'est tout à ton honneur aussi.
Ouais, merci. Bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Bye.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
La Cour suprême force maintenant Donald Trump à remettre ses rapports d'impôts. Il y avait, rappelez-vous, il y avait eu tout qu'un débat à l'époque à savoir est-ce qu'il devait dévoiler ses revenus en tant que politicien, en tant que président. Également, bien, on sait... Donald Trump a été, si on peut dire, acquitté de l'impeachment, la procédure en destitution. On l'avait prédit, mais c'est fait. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que la question qui se pose, est-ce que Donald Trump ira en prison ou pourra-t-il se représenter? Il y a Normand Lester qui avait écrit une belle chronique là-dessus dans le Journal de Montréal cette semaine. Mais on voulait l'analyse également de Luc La Liberté, notre chroniqueur en politique américaine et en judiciaire maintenant américain, parce qu'il y a beaucoup qui se passe. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour, François-David.
Donc, on s'était parlé avant la décision de donc, j'imagine, pas surpris de ce qui s'est passé avec Donald Trump.
Non, pas vraiment. On l'avait dit, hein? C'est un processus qui est hautement politique. Il ne faut jamais l'oublier, la procédure de destitution. Donc, bien entendu, on se comporte hein, de part et d'autre, le républicain et le démocrate, quand on se retrouve devant le Sénat, ben, on se comporte comme soit des procureurs ou des avocats de la défense. On fait parfois appel à des experts de l'externe même pour venir commenter ou argumenter, mais ça demeure essentiellement politique. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec, historiquement aux États-Unis, 4 procédures de destitution auxquelles les présidents ont été confrontés, Donald Trump 2 fois, mais aucun président, hein, faut le rappeler, n'a été destitué dans l'histoire. Le seul qui a quitté dans le cadre d'une procédure, c'est Richard Nixon, et mm-hmm. il le fait de son plein gré, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de quitter avant qu'on enclenche la procédure à la Chambre des représentants.
Ça, c'était le fameux Watergate là, aux États-Unis.
Voilà, dans ouais. le fameux scandale du Watergate, on était sur le point de lancer officiellement la procédure quand M. Nixon, après avoir utilisé tous les subterfuges ou tous les recours possibles, avait convenu que c'était probablement mieux pour lui de quitter. Mm-hmm. Donc, M. Trump, ben, c'était pas une surprise. Maintenant, ça nous a montré aussi jusqu'où à la fois républicains et démocrates étaient prêts à aller dans le cadre de ces procédures-là. Les républicains nous ont montré qu'au plan de l'éthique et de la morale, ben, ils ont beaucoup, beaucoup de souplesse de ce côté-là. Puis, au plan politique, ben, on est encore à gérer, d'ailleurs, les suites de ça. M. Trump, dimanche, va s'adresser au regroupement conservateur qu'on appelle le CPAC aux États-Unis. Puis déjà, lui, on prétend qu'il sera sur les rangs pour 2024.
Ah ouais, déjà?
Oui, voilà, pour le volet politique, écoute, et même Mitch McConnell, le meneur républicain qui a voté contre la destitution,
okay.
qui avait dit, je pense que moralement, Donald Trump est responsable de ce qui s'est passé le 6 janvier, même lui, hier, disait, s'il se présente en 2024, je vais l'appuyer.
Donc, c'est vrai, j'avais pas suivi ça. Quand on dit qu'on l'appelle Donald le canard, ça y coule sur le dos, s'en sort. Mais est-ce que les républicains, moi, c'est ma question, est-ce qu'il aurait pu le tasser? Ou vu que c'était déjà un président, c'est lui le candidat automatiquement?
Non, c'est pas automatiquement. On a d'ailleurs, s'il devient candidat, il n'y a rien qui dit officiellement encore que il va devoir se soumettre au calendrier des primaires et des caucus, ce qu'on fait à chaque 4 ans quand on veut être le candidat d'un parti. Il n'est pas exclu qu'il ait des adversaires. Pour l'instant, on en voit peu parce que visiblement, il a encore une bonne poigne sur le parti. On le voit là, parce qu'il y a des élections en 2022, les prochaines présidentielles, c'est 2024. Puis on voit qu'on a encore besoin du côté républicain de ses partisans. On n'envisage pas de victoire sans l'appui des partisans de Donald Trump. Et ça explique la force du président sortant, même après 2 procédures de destitution. Et même vers, et on pourrait se tourner vers ça, même vers des recours dans les tribunaux. Donc, il semble qu'on s'attache encore à Donald Trump malgré l'ensemble des controverses.
Ben oui, puis là, j'imagine, en tout cas, moi, je suis un démocrate. Là c'est la cible. On va tout faire pour qu'il y ait un procès, qu'il soit accusé de quelque chose, le descendre en bon québécois. Pour pas avoir cet adversaire-là en 2024?
Voilà, écoute, on a maintenant, si on regarde au plan légal ou au plan judiciaire, il y a au moins 6 causes qu'on surveille pour Donald Trump, mais celle sur laquelle on obtenait des informations cette semaine, c'est une des plus grosses charges, une des plus grosses causes. A-t-il sciemment, volontairement commis des fraudes? Et c'était là toute l'importance de la décision de la Cour suprême qui l'oblige maintenant à fournir les documents qui étaient exigés par le procureur du district sud de Manhattan. Mm-hmm. Donc, lui travaille là-dessus depuis déjà très longtemps. On n'avait pas, bien sûr, l'ensemble de la documentation des fameux rapports d'impôts, mais on avait des témoins. Hein, l'ancien avocat dont on parle moins maintenant, Michael Cohen, qui s'est retrouvé derrière les barreaux pour fraude électorale, pour avoir enfreint la loi électorale, lui disait au nom de Donald Trump, Monsieur Trump, bien sûr, c'est son jeu au plan légal, et c'est peut-être la vérité, avait dit, moi, je lui ai jamais demandé de faire ça. Mais donc, il est derrière les barreaux, il était derrière les barreaux, Monsieur Cohen, puis il avait dit, entre autres, dans un témoignage très accablant devant le Congrès américain, Monsieur Cohen avait dit, écoutez, en affaires, c'est grosso modo, c'est croche, c'est un magouilleur Donald Trump. Et ce qu'on va tenter maintenant de démontrer, c'est qu'on va regarder bien sûr les chiffres sur ces rapports d'impôts, mais ce qu'on va tenter de démontrer, en passant, on parle de centaines de milliers de pages de déclarations, là, quand on regarde l'ensemble de la documentation reliée à, c'est quoi, 9 ans d'imposition là, pour Donald Trump.
Okay.
Donc, ce qu'on va tenter de trouver là-dedans, c'est non seulement des chiffres, et ça, on en avait déjà une bonne idée des chiffres. Ce qu'on va tenter de voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a des échanges entre Donald Trump et ses gestionnaires disant grosso modo, vous allez baisser le prix de telle propriété ou vous allez l'augmenter selon que je veuille un prêt plus important, donc mes avoirs deviennent plus importants. Un terrain de golf, ben, on va évaluer ça à la hausse si je veux obtenir un prêt supplémentaire. Et de l'autre côté, ben, est-ce que pour le même terrain, on n'a pas intérêt parfois à ramener la valeur au plus bas dénominateur, histoire de payer moins d'impôts? Mmh. Donc, c'est ce qu'on va chercher actuellement.
Mais on va essayer de voir si c'est servi, s'il y a mélangé politique à faire. Mais il reste que ces rapports d'impôts, est-ce qu'il les a déposés? Parce que je comprends que c'était l'enjeu des rentes publiques, mais il a fait son impôt depuis 9 ans. Là. Fait que le système fiscal, s'il y avait un réel problème, serait déjà il courrait déjà après, mais sans... Non?
Ça va être plus complexe que ça à faire ressortir. Et ce qu'on voulait surtout, c'est obtenir... Il y avait déjà des drapeaux rouges qui avaient été levés pour les impôts de Donald Trump. Puis en passant, pour lui, mais comme ses compagnies sont très diversifiées, il en a beaucoup, ça implique sa famille aussi. Ça implique Don Jr., ça implique Eric et ça implique Ivanka. Donc, il n'y a pas que Donald Trump dans ce dossier-là, même si, bien sûr, c'est le plus en vue, celui sur lequel les médias se concentrent le plus. Donc, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est la firme comptable qui disait, nous, on remet pas ça. On n'a pas à les remettre parce que M. Trump nous dit de pas les remettre. La Cour suprême a dit, vous les remettez. Ça va être fascinant à suivre. Un, parce que moi, j'ai déjà hâte de voir quels vont être les délais de cette cause-là. Le procureur du district sud de Manhattan, il s'en va à la fin de l'année, si ma mémoire est bonne. Et c'est lui qui veut mener ce combat-là à terme. Donc, il faut qu'il accélère la procédure. Et il semble qu'on dispose, et là, ben, je m'en remets plus à tes compétences dans le domaine, c'est ton champ de spécialité, mais il semble qu'on dispose de logiciels pour être en mesure de trouver ce qu'on veut dans les documents. Donc, on imagine la quantité de personnel dont on a besoin pour scruter à la loupe des centaines de milliers de pages de documents, mais on s'aide également de la technologie. Donc, on est capable d'accélérer l'étude des documents pour voir si ça nourrit les accusations qu'on porte contre Donald Trump. Okay. Et dans ce cas-ci, je répète, ça ne concerne que la fraude. Donc, même si on apprenait des choses ou qu'on voyait des choses sur en lien avec le dossier ukrainien, par exemple, ou en lien avec la Russie, c'est pas sur cet aspect-là qu'on se concentre présentement, c'est sur la fraude. Donald Trump avait-il sciemment donc l'intention de frauder le système américain.
Mais voilà. J'imagine on va regarder si le politique. Est-ce que la maxime jamais 203 va s'appliquer? On va-tu essayer de le dissuader en trouvant quelque chose encore? Ou parce que l'histoire de l'Ukraine ou non?
On reviendra pas cette fois-ci sur une autre procédure de destitution. Okay. Ce qui est vraiment là au cœur de tout ça, c'est on pouvait pas le poursuivre au fédéral pour les crimes commis quand il était président. Faudrait voir maintenant si ce qu'on trouve à la hauteur de l'État de New York est en lien, entre autres, avec ce qu'il a fait à la présidence. Ça peut être un volet qu'on va regarder. Okay. Donc, le fédéral ne peut pas l'accuser parce que ces gestes-là ont été commis à l'intérieur ou dans le cadre de ses fonctions. Donc, on ne l'accuse pas au fédéral. Donc, on joue sur deux tableaux là-dedans. Il y a des choses qui ont été faites alors que Trump n'est pas président. Donc, les rapports d'impôts qu'on regarde, c'est des rapports d'impôts qu'il a produits, mais avant de devenir président des États-Unis.
C'est ça, on veut l'attraper par tous les moyens.
Mais en même temps, parfois, quand on étudie les rapports d'impôts, bien, dépendamment à quelle période d'imposition on s'intéresse, bien, parfois, on entre dans la période où il est président des États-Unis, mais c'est au niveau d'un État qu'on l'accuse et pas au niveau fédéral.
OK, pas fédéral. Non, je comprends. Luc, à la question, il nous reste une minute et demie, puis là, c'est une grosse question. Est-ce que Donald Trump, d'après toi, ira en prison? Comme son avocat?
grosse boule de cristal à mettre en évidence. C'est dans le domaine des possibilités. S'il est reconnu coupable de ce dont on l'accuse, Donald Trump et peut-être même ses enfants pourraient se retrouver derrière les barreaux. Moi, je pense plus à des négociations parce qu'on va avoir à attacher beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Je penche plus vers une pénalité financière qu'on imposerait à ses compagnies. Comme ça a été le cas, par exemple, avec sa fondation. M. Trump a abusé finalement du cadre de fonctionnement de sa fondation, puis on a obligé la famille à suivre des formations, puis on les a obligés d'ailleurs à dissoudre cette fameuse fondation. Donc on verra jusqu'où on va aller dans le cas de M. Trump. Mais envoyer un ancien président derrière les barreaux, on espère en tout cas que le cas est très très bien étoffé, parce qu'on s'attaque à un très très gros morceau. Peu importe ce qu'on pense de Donald Trump, l'ensemble de la preuve à recueillir, puis démontrer, c'est souvent le cas, des intentions malveillantes.
Ben, c'est ça. En fiscal, c'est ça. Il y a une différence. Tu peux avoir bien des pénalités, mais de dire qu'une fraude intentionnelle, c'est là que ça va être difficile. Mais en tout cas, l'historien en toi, s'il allait en prison, tu ferais partie tu serais direct dans l'histoire. On n'a jamais vu ça, un président emprisonné.
Ben, écoute, moi, je répète ça depuis le début. Peu importe ce qu'on pense de Donald Trump, c'est fascinant dans le cadre d'un cours de mettre cette administration-là et ce personnage-là en parallèle avec tous ses prédécesseurs. Ouais. Donc, il y a quelque chose de fascinant parce qu'on teste, on l'a répété je ne sais pas combien de fois, l'ensemble des limites du système. Mm-hmm. Il est vraiment un cas à part. Ouais. Même si l'historien se garde un peu de perspective d'habitude, je peux déjà vous dire que Donald Trump, dans les livres d'histoire, il va avoir une place bien à lui.
Ben oui, ça sera un personnage marquant, c'est certain. Merci beaucoup, Luc.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
En exclusivité, Avocat à la barre vous fournit les 5 stratégies pour passer à travers la semaine de relâche, que ça soit productif autant pour les ados que les parents. Effectivement, on le sait, la semaine de relâche est commencée ou commence lundi, demain. C'est tout qu'un défi cette année. C'est une année différente parce que, bon, on sait habituellement, la semaine de relâche, on a travaillé fort toute l'année. Les étudiants aussi, évidemment. Et là, on réussit à avoir cette semaine-là, souvent passer du temps en famille, beaucoup aller en voyage aussi. C'est pas possible cette année. Là, ça sera spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui devront, c'est mon cas, devront travailler en même temps que devoir, si on peut dire, entertainer, excusez l'anglicisme, leurs enfants. Il y a tout un équilibre et on voulait essayer de voir avec un spécialiste de la gestion de haute performance, M. Patrice Ouellet de la méthode 48 heures, explorer ça, ses stratégies pour bien gérer la semaine de relâche. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Maître Bernier. Comme vous l'avez bien dit, je pense qu'il y a moyen pour les ados d'avoir une belle semaine, une semaine où la relâche est utilisée pour son utilité première, c'est-à-dire prendre une pause, mais en même temps, c'est le bon moment aussi peut-être de regarder comment est-ce qu'on peut rendre la relâche plus performante, plus productive, en alliant ça avec du plaisir.
Mm-hmm. C'est l'équilibre, parce que ceux qui doivent travailler, c'est pas toujours facile. Les adolescents peuvent s'emmerder.
Absolument, puis on le sait, même quand on est adulte, on tombe facilement dans l'excès quand on n'a pas de plan précis. Hein? Mm-hmm. Même les adultes, ça nous arrive pendant les vacances. Donc, c'est important de planifier. Et je vous dirais, Maître Bernier, le premier conseil que je donne aux ados en cette période-ci de l'année, on est début mars, c'est de mettre à jour votre curriculum vitae. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les emplois d'été s'en viennent très bientôt.
Et la reprise, parce qu'il y aura, on espère du moins qu'il y aura une forme de reprise de l'emploi. Là.
Absolument.
On peut penser aux restaurateurs, par exemple.
C'est un très, très bon point. Ça veut dire quoi mettre son curriculum à jour? Ça veut dire s'il y a des travaux où vous êtes démarqué, vous avez un beau commentaire d'un professeur, c'est de le joindre à votre curriculum, vous avez des témoignages, vous avez fait du bénévolat, ou encore des activités sportives, et tout ce qui peut vous permettre de vous démarquer comme ado. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous permette de démarquer? Et vous savez, c'est important. Des fois, on néglige ça, l'aspect sportif qui peut montrer de la discipline, de la persistance, de la persévérance. C'est important de le démontrer dans son curriculum.
Mm-hmm. OK. Ça, c'est la première stratégie. Bon moment pour faire ce curriculum-là pour les ados, là.
Première stratégie, on apprend, faut apprendre jeune, comme on dit, à se vendre, à faire ressortir ses points forts, à se démarquer. Mm-hmm. Deuxième point, si on parle de se vendre, bien, c'est d'apprendre à visualiser. Est-ce qu'il n'y a pas des employeurs où vous aimeriez travailler? C'est peut-être le temps de commencer à tout de suite les cibler. Pourquoi attendre de voir qu'est-ce qui est disponible plutôt que d'être proactif et d'aller témoigner à un endroit où vous voulez travailler, de votre désir de travailler là? Et souvent, vous savez, les gens qui sont très proactifs, sont jeunes, se démarquent beaucoup. C'est des habiletés qui vont vous servir toute votre vie.
Mm-hmm. OK. Très intéressant.
Donc, ciblez vos employeurs. Troisième point, et ça, je vous recommande de le faire avec vos parents, si possible, c'est de regarder par matière que vous avez à l'école. Vous êtes où en date d'aujourd'hui? C'est quoi les notes que vous avez? C'est quoi la moyenne du groupe? Parce que le plus important, vous savez, même lorsqu'on est dans la haute performance, c'est pas autant le score qu'on obtient, c'est l'écart qui existe entre moi et les autres. Et si je veux continuer à me démarquer, être un ado un peu plus performant, puis je veux développer ces habiletés-là qui vont me servir toute ma vie, c'est important de bien cibler c'est quoi l'écart dans chacune de mes matières. Mm-hmm. Et quelle matière qui va nécessiter plus de temps dans la prochaine portion de l'année scolaire.
Okay.
Donc, on devient à ce moment-là plus stratégique. Donc, on se fait la liste. Maths, physique, chimie, et ainsi de suite. C'est quoi ma note à date? C'est quoi la moyenne du groupe?
OK.
Et ça va être le bon moment pour ceux qui n'ont pas eu des bonnes notes de voir, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan? et de commencer à développer cet esprit-là un peu plus critique. Et aussi de regarder la réalité en face, parce qu'on le sait, même quand on est adulte, souvent, quand on vit des moments difficiles, exemple financièrement, ça va pas, ou dans le couple, ça va pas, souvent on est dans une phase où on va nier ses problèmes, on n'ose pas les regarder parce que c'est douloureux. Quand on est ado, on fait la même chose.
Okay.
On traîne ça souvent longtemps. Quatrième conseil, la relâche, mes amis. C'est le bon moment pour faire la liste de vos 5 amis avec qui vous passez le plus de temps et d'évaluer ces gens-là. Ils vous apportent quoi dans votre vie? Et aussi, ces amis-là vous ont fait vivre quoi comme problème? Ah. Quand on est ado, là, et je peux vous en parler longtemps, comme parents, souvent nos enfants ou nos ados vont avoir des gens avec qui on se tient, puis comme parents, on trouve que c'est pas des bonnes influences. C'est important que ça vienne de l'ado lui-même. C'est important de poser un regard critique, c'est qui mes meilleurs amis et quels problèmes aussi ils m'ont fait vivre. Parce que la génération des ados d'aujourd'hui, Maître Bernier, vit un phénomène que nous, on n'a pas vécu.
Non, c'est ça.
C'est les médias sociaux et les traces qu'on laisse sur les médias sociaux vont nous suivre toute notre vie. Et on voit déjà aujourd'hui des carrières détruites par des pauses qui sont faites il y a 10 ans puis il y a 15 ans.
Ah ouais, tant que ça...
Absolument, absolument. Écoutez, Facebook a débuté en 2004 et déjà on voit des gens qui ont mis des pauses il y a 10 ans et on leur reproche ça aujourd'hui. Leur pensée était dans une direction puis on évolue, on le sait, mais ça laisse une empreinte. À notre époque, à mon époque, il n'y en avait pas de médias sociaux. Donc, ça reste des rumeurs. Là, c'est pas des rumeurs, c'est écrit.
D'où en Europe, peut-être ça arrivera ici, on appelle ça, c'est un nouveau droit, on appelle ça le droit à l'oubli. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont des traces sur les médias sociaux ou Internet qui sont indélébiles, qui partent pas, qui vont leur nuire. Puis même, on pense à instaurer ce droit à l'oubli.
C'est peut-être... Oui, puis... Écoutez, je connais un nombre incroyable d'employeurs que la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils reçoivent un curriculum qui va passer la prochaine étape, donc on va faire un deuxième tri, souvent on va aller voir sur Instagram, on va aller voir les photos sur Facebook.
Y a-t-il un employeur qui Google pas son employé?
Ben, et voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que les gens avec qui vos amis, il y en a qui peuvent avoir des influences positives et il y en a des fois qui nous amènent, comme dirait Luke Skywalker dans la Guerre des étoiles, du côté obscur de la force.
Oui, effectivement, nos fréquentations, ça peut jouer. Ouais.
Exactement, puis c'est important d'être capable, comme ado, de poser un regard critique, quels amis vont me permettre de me bâtir un meilleur futur, puis lesquels, avec qui peut-être je devrais couper les liens.
Mm-hmm. Ah ouais, à ce point-là.
Ben écoutez, c'est la même chose quand on est adulte. Hein? Si vous êtes la personne la plus confortable dans la salle, il est peut-être temps de changer de salle si vous voulez continuer à grandir, à devenir plus performant. C'est le même principe. Hein? Les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ont souvent énormément d'influence sur qui on est et surtout qui on devient.
Mm-hmm. Ah, effectivement. Et le dernier conseil...
Dernier point, c'est que les 4 points que je vous ai donnés sont bons, mais ils sont bons si on les planifie. Fait qu'avant de vous lancer dans la semaine, demain c'est lundi, bien planifiez votre relâche. Et là, j'aurais juste deux façons pour les ados de planifier ça. Vous pouvez soit prendre une journée dans la relâche, exemple jeudi, puis jeudi, vous passez à travers la liste des 4 points. Ou encore, si on appelle ça de la planification verticale, hein, on prend une journée puis on la descend, toute la journée consacrée à faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Ou l'autre façon, il y en a qui aiment beaucoup ça aussi, c'est prendre une heure par jour à tous les jours, puis faire avancer nos dossiers. On appelle ça de la planification horizontale. Mm-hmm. Donc, on travaille plus en récurrence pendant la relâche. Donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet de rendre notre relâche productive sans oublier d'avoir du plaisir puis d'avoir du fun, puis faire attention aux excès. On le sait, les jeux vidéo, c'est un gros problème pour certains ados, particulièrement la clientèle masculine d'ados. Mm-hmm. J'en ai un à la maison, croyez-moi. si on contrôle pas le nombre d'heures passées, c'est absolument incroyable.
Ah, c'est facile, hein? Même les plus jeunes. Moi, j'en ai des plus jeunes, puis c'est facile de tomber là-dedans. Mais je trouve ça intéressant, Patrice, même ado, on peut faire ce genre de choses-là. Je sais pas, on a l'impression qu'on c'est plus tard, quand on est en affaires, qu'on va penser, faire des réflexions comme ça sur notre vie, en quelque sorte, ou sur où est-ce qu'on est rendu.
Écoutez, toutes les fois qu'on va dans les graduations, Maître Bernier, du secondaire 5, ou particulièrement là, parce que c'est un moment important dans sa vie, finir le secondaire, puis on envoie des beaux ados qui se distinguent, qui sont sérieux, mais qui ont aussi du plaisir dans la vie, mais qui déjà très jeunes, on voit la graine qui est bien instaurée, des belles habiletés, des bons comportements, des bonnes fréquentations, et ça a un impact important sur leur futur, croyez-moi. Donc, oui, c'est possible d'installer ces habitudes-là très, très jeunes et de développer ces habiletés-là, absolument.
Mm-hmm. Effectivement. C'est sûr que un jeune, des fois, qui sait déjà ce qu'il veut, je trouve que ça lui donne des fois une chance. Parce que des fois, ce qu'on assiste beaucoup dans plusieurs générations, je pense, c'est de pas savoir. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai les pires périodes de ma jeunesse, c'est de pas savoir où on va aller. Des fois, c'est donc ces moments-là, bon, c'est un bon moment pour la semaine de relâche de prendre le temps. Nos ados, en même temps que le parent peut-être travaille, il y a des moments de mettre des plages. Merci beaucoup, Patrice Ouellet. Bonne semaine de relâche.
On se reparle
la semaine prochaine. Bye-bye.
Cube Radio.